J'ai entendu ce matin sur France Inter, faut bien s'informer, Jacques Chirac attend la sortie du film Indigène pour revaloriser les pensions des anciens combattants africains. Qu'est-ce qu'il attend ? De connaître le nombre d'entrées ? Je ne savais pas que c'était les recettes du film qui devaient financer. Allez, salut Mermet.
Je m'appelle Aïcha et j'habite Sainte-Gabel. Je me suis levée ce matin à 5 heures pour prendre un copieux déjeuner afin d'affronter la journée de jeûne comme tout musulman. Excusez-moi, je suis émue. Ce matin est un jour différent des autres. C'est un jour qui rend hommage, c'est dur, à mon papa et à tous ces hommes qui ont combattu avec lui. Mon papa aurait 80 ans. Il est décédé il y a 10 ans. Je vais lui rendre hommage en allant voir le film Indigène. C'est dur. Qui sort aujourd'hui en salle. J'ai entre les mains son carnet militaire, tout est limé, que je garde comme un trophée. Je lis ceci. Monsieur Némir Mohamed, voilà, donc signalement, Monsieur Némir Mohamed, visage ovale, cheveux noirs, front étroit, nez long, yeux noirs, taille 1m68, signe particulier, tatouage au front. À l'époque, c'était à la mode. Il a été enrôlé pour l'Alsace le 10 octobre 1944. Il faisait partie du bataillon d'infanterie numéro 2. Et cela pendant un an et demi. Je lis aussi. Démobilisé, renvoyé dans ses foyers le 16 mars 1946. Sur le tampon du livret, on peut lire aussi « Bureau de recrutement d'indigènes, division de rang ». Et voyez-vous, je pense qu'il n'a gardé aucune haine de cette sale guerre, car l'indigène qui était mon père, l'indigène qui était mon père est retourné vivre en France en 1954, avec toute sa petite famille, à Metz-Moselle. J'avais à l'époque 4 ans, et ça c'est une autre histoire. Qui repose en paix là où il est.
Voilà, j'appelle au sujet des Chibani et du problème posé à Marseille, tant à la suite de la rétention des feuilles de non-imposition par les services fiscaux que par les menaces d'expulsion de certains habitants du quartier du Rouet. Au moment où sort le film Indigène, où les médias en grande majorité parlent de la reconnaissance de l'implication des habitants d'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, dans notre pays, aujourd'hui, à Marseille en particulier, une chasse est ouverte en fait contre ces vieux travailleurs immigrés qui sont venus à notre demande, à la demande de l'État français pour travailler, pour construire une France d'aujourd'hui. Et en remerciement, soit on leur enlève une partie de leurs revenus de minimum retraite, soit on leur dit qu'il n'y a plus de logement pour les accueillir dans ce pays, alors qu'ils ont des droits santé, des droits de vivre dans ce pays qui est en partie de leur. Voilà ce que je voulais dire, et c'est le moment, je crois, de penser à eux, et pas uniquement de penser, d'être solidaire, d'agir pour qu'il y ait une reconnaissance de la spécificité des vieux travailleurs immigrés, qu'ils soient maghrébins ou africains, subsahariens. Il y a besoin de légiférer, il y a besoin aussi d'empêcher que ce gouvernement, pas simplement que le ministre de l'Intérieur, mais y compris le Premier ministre, le Président de la République, une cause commune en fait, c'est d'organiser dans ce pays la chasse à l'immigré, alors qu'on a besoin d'une immigration. On a besoin de discuter et de réfléchir à ce que doit être l'immigration dans notre pays, comment il doit être accueilli, comment doit s'effectuer la libre circulation entre les pays. Voilà, à partir de la question des vieux travailleurs immigrés, toute la question de l'immigration est posée aujourd'hui. Nous ne devons pas nous défausser sur cette question. C'est un engagement de société que nous devons avoir, et un engagement de société pas uniquement pour la société française, mais pour un autre monde que nous voulons, plus juste, plus humain, où les barrières, où il n'y ait pas de pays pauvres et de pays riches, et où les équilibres soient une question centrale au niveau des échanges entre les pays.
Merci pour ces messages que déclenche la sortie de ce film indigène. Et on avait déjà traité cette question il y a bien longtemps dans la base J'y suis sur les retraites des combattants entre guillemets indigènes. Et on rediffusera demain ou après-demain, on va voir selon les opportunités de la programmation, un reportage sur les Chibani de Marseille, précisément. On écoute d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés sur le répondeur de la base J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, salut Daniel, c'est Muriel de Guadeloupe. J'étais dans ma petite voiture aussi, comme René, et je vous écoutais, sauf que moi, il y a les cocotiers, mais c'est un petit peu le même boulot que René. Mais j'ai un petit peu plus de chance, on va dire, parce qu'il y a les bonnes odeurs de Pointe-à-Pitre, du marché aux épices, il y a le soleil et ça va déjà mieux. Enfin, c'était pour vous dire que on vous écoute, même expat de là-bas, 6000 km de Paris. Et puis, on pense bien à vous. Et puis, un petit coucou à toute l'équipe et on est heureux de vous retrouver. Et un peu de soleil pour vous et puis un gros bisou à tous. Bye bye, c'était Muriel de Guadeloupe.
Oui, bonjour, je vous appelle de Perpignan, je viens d'écouter votre émission comme tous les jours avec René et j'étais très émue parce que c'est quasiment la même histoire ici. Moi je fais des inventaires de mobilhomes à 5 euros pour des mobilhomes qui se louent à peu près 800 euros la semaine, voilà. Et c'est ça ou rien. Voilà, donc la misère pareil, du nord au sud, de l'est à l'ouest... C'est affreux.
Ouais, salut, moi je bosse au péage là et puis c'est ma pause. Et là je viens d'écouter René et je lui tire mon chapeau quoi, René. Et puis René, il a tout compris sur les péages. Même ce que certains se refusent toujours à voir chez nous. C'est vrai, la réalité est parfois douloureuse. Mais bon, de toute façon, la politique de désertification des péages par la mise en place des voies automatiques. Elle va pas tarder à rentrer dans sa phase ultime. Au bout du compte, pas mal de salariés risquent de se retrouver sur le carreau. Ça s'appelle la déshumanisation maximale. Bah ouais, c'est vrai, les voies automatiques, elles tombent pas malades et surtout, elles font pas grève, quoi. Mais bon, le résultat de tout ça, c'est encore une fois un gros paquet de profits et une redistribution des dividendes toujours aussi inégalitaire. Et puis voilà, quoi, les actionnaires, ils vont encore bien s'engraisser comme il faut, quoi. Allez, salut René, salut Daniel, y suerte para todos. Ciao, c'était Steph.
De Metz, je suis en train d'écouter l'émission et je suis effaré de voir à quel point ce que décrit la personne que vous interviewez. Eh bien, c'est ma situation presque point par point. Aujourd'hui, j'ai bien sûr la chance de m'en être sorti, mais je suis passé par les boîtes d'animation qu'il décrit, par les choses qu'il décrit, et j'avoue que ça me fout un peu les boules, parce que visiblement, comme il dit, on est vraiment sûrement très nombreux dans ce cas. Aujourd'hui, je m'en suis sorti et je suis beaucoup moins précarisé, même si c'est loin d'être merveilleux, et même s'il faut se battre à mort. Mais j'avoue que je suis sur le cul quand j'entends ce qu'il dit, parce que j'ai vécu des choses similaires, mais pas aussi naze que ce que lui est en train de vivre ou ce qu'il a vécu, à part peut-être une fois où on m'a carrément prélevé 500 euros sur un salaire de 700 d'une quinzaine de jours, hein, un petit peu comme il écrit, suite à un petit problème d'un véhicule prêté qui était un véhicule de location où la franchise était à 100% à notre charge. Autrement dit, pour 15 jours, j'ai gagné même pas 200 euros. Allez vivre donc avec 200 euros. Voilà, c'était Georges de Metz. Écoutez, continuez vos émissions, elles sont vraiment sympas et surtout, elles sont vraiment proches de la réalité des gens, ce qui n'est pas du tout le cas pour beaucoup d'autres choses.
Beaucoup de messages sur l'histoire de René, c'était le reportage d'hier, un reportage de François Ruffin, sur l'histoire de ce VRP assez solitaire dans sa petite auto. Et ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui. Un livre sort qui s'intitule « 7 millions de travailleurs pauvres ou la face cachée des temps modernes, c'est d'un journaliste, ils sont pas tous si mauvais que ça, qui s'appelle Jacques Cotta. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques Cotta, qu'il y a effectivement dans notre beau pays 7 millions de travailleurs pauvres, c'est-à-dire 7 millions de Françaises et de Français qui travaillent, mais qui ont des revenus de moins de 722 euros par mois. Et il faut savoir que plus de 3 SDF sur 10 ont un boulot à temps complet. Alors que le PIB progresse constamment depuis 1990, l'intérim en France a augmenté de 130% depuis 1990, les CDD ont augmenté de 60% pour la même période et les CDI seulement de 2%. Les chiffres assez brutaux qui disent assez bien l'insécurité croissante, qui n'est pas seulement un sentiment d'insécurité, mais une réelle insécurité sociale. Bien sûr, je parle d'insécurité sociale dans ce pays, mais voilà, c'est seulement des chiffres. Et Jacques Cotta, dans son bouquin, s'est attaché à mettre des visages, des histoires et des destinées sur ces chiffres. C'est notre sujet du jour. Pendant ce temps-là, nous, on continue à Kaboul. On vient d'arriver à Kaboul, en Afghanistan, avec une question toute simple que tout le monde se pose un peu partout. La guerre contre le terrorisme ne produirait-elle pas par hasard encore plus de terrorisme? Et alors, si oui, si la réponse était oui, on n'a pas la réponse toute prête, mais si la réponse était oui, qui a intérêt à cet affrontement et à cette escalade, car l'escalade reprend en Afghanistan? Déception, rancœur, corruption, entre répression et développement, il semblerait bien que le bilan soit assez sombre, 5 ans après l'offensive de la coalition, souvenez-vous, en octobre 2001. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on était là il y a 5 ans, et nous revoilà aujourd'hui en essayant de comprendre, de reprendre les pistes qu'on avait prises à l'époque et de vous rapporter une idée de ce qui se passe dans ce pays qui ressemble plutôt à un terrain de jeu à autre chose. Ce sera dans quelques semaines à notre retour. Pour l'instant, aujourd'hui, le bouquin de Jacques Cotta, 7 millions de travailleurs pauvres, et quelques messages encore parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Suite au message de l'auditrice du 26 septembre qui parlait du quartier des Tarterets en Corbeil-Essonne, qui parlait de la politique du maire Serge Dassault, pour le nommer. Donc, moi, je voulais témoigner d'autre chose. J'ai été stagiaire éducatrice à la Porte de Vanves. Et à ce moment-là, j'ai cru que j'allais abandonner complètement ce métier, parce que je me suis retrouvée dans un quartier avec une politique très, très spéciale, où finalement, je me demandais si on n'incitait pas les jeunes à se tuer entre eux. Et j'ai vu la milice de Sarkozy, parce que c'est comme ça que je l'ai nommée, qui déboulait devant le local de la prévention et qui provoquait les jeunes en leur faisant sauter leur casquette Lacoste, évidemment, qui était tombée du camion, et qui les provoquait physiquement, qui les bousculait jusqu'à ce que les jeunes cognent. À ce moment-là, une fois que les jeunes étaient cognés, eh bien, ils allaient en prison, parce que c'est ça qu'on voulait, les faire grandir en prison. Et les jeunes y revenaient 6 mois après, 1 an après, et moi, ils me disaient, voilà, j'étais en prison dans des toutes petites cellules, on était 5 dans 6 mètres carrés, et on passait notre temps à regarder la télé, et ils rentraient de prison, ils avaient les manches. Vous savez, ils avaient grandi en prison, leurs vêtements étaient trop petits. Et ils disaient, oui, mais nous ici, c'est comme ça. On est nés comme ça parce qu'on est dans le move. Et voilà comment ils se qualifiaient. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir, plus rien. C'était noir, noir, noir. Heureusement, j'ai pas lâché. J'ai eu mon diplôme et maintenant je bosse. Mais je bosse plus en prévention. Je bosse pour empêcher que ces mômes-là, ils aillent en prison. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, je voulais vous dire que, eh bien, moi, quand je bosse pas, j'écoute vos émissions et qu'en fait, c'est quand vous voulez la révolution. Quand vous voulez. Voilà.
Ça va être joyeux mercredi, hein, parce que 18h30, on a rendez-vous tous à la sous-préfecture à l'appel de Brest Éducation Sans Frontières pour un rassemblement, normalement, contre les lois de Sarkozy. Ensuite, donc, il y a le repère de Mermet à 19h30 au Café de la Plage, place Guérin, bref, et la FPS jeudi au rendez-vous 17h30 devant la librairie Dialogue à Brest pour la FPS, Association France-Palestine Solidarité, suivi à 20h30 d'une réunion publique à la Maison des Syndicats. Voilà, voilà, allez, ciao tout le monde et l'OTAN continue.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les AMG, notamment les AMG du Mans et de la Sarthe. C'est Manu, j'appelle pour signaler l'ouverture d'un premier repère dans le 72, donc au Mans. Ce sera l'épicerie du Pré, un café, cantine modeste et génial lui aussi, au 31 rue du Pré, au Mans. Et le premier rendez-vous sera donc le 11 octobre 2006, cette année, donc, deuxième mercredi du mois à 18h30. Donc, pour tout renseignement, vous pouvez me contacter, Manu, j'ai créé une adresse email, labas72, tout attaché, @hotmail.fr. Donc, je donne rendez-vous à très bientôt à tout le monde.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Basse, j'y suis avec Jacques Cotta. 7 millions de travailleurs pauvres, la face cachée des temps modernes. Flight number 2, arriving from New York. Si je donne de la nourriture aux pauvres, ils me traitent de saint. Si je demande pourquoi les pauvres n'ont pas de nourriture, ils me traitent de communiste. Voilà, c'est une petite citation, une brève citation de Don Elder Camara que vous mettez en exergue de votre chapitre de conclusion, Jacques Cotta. Vous publiez un bouquin chez Fayard dont le titre dit beaucoup de choses déjà à lui tout seul. 7 millions de travailleurs pauvres, la face cachée des temps modernes. Alors, 7 millions de travailleurs pauvres, on a un chiffre qui flotte en permanence, on dit il y a 4 millions de pauvres en France, il y a 5 millions de pauvres en France, enfin, d'abord on n'en parle pas, mais quand on en parle, le chiffre sort de temps en temps, une fois ou deux par an, et alors on fait une émission spéciale, un téléphone sonne, enfin on s'inquiète un petit peu, et puis on prend des grandes décisions, et puis, enfin, la compassion, les projets, etc., et puis on passe à autre chose. Là, vous attaquez sur 7 millions de travailleurs pauvres, c'est ça le plus important dans le titre du bouquin, c'est travailleurs pauvres. C'est un mot qui est apparu en Grande-Bretagne, aux États-Unis, les working poor. Mais maintenant, c'est traduit en français. Vous traduisez ce mot en français. Jacques Cotta, vous êtes journaliste. Vous avez travaillé ici, chez nous, Radio France. Radio, oui. Et maintenant ?
Maintenant, France 2.
À France 2.
Je fais la télévision depuis un petit moment maintenant et je fais essentiellement du documentaire.
D'accord. Et là, vous êtes parti en reportage. Comment ça a commencé?
C'est le pur hasard. Je vais vous raconter une petite histoire qui illustre le début. Je me trouve dans un lieu public, et dans ce lieu public, il y a une brave dame qui est là, qui est une clocharde, et qui manifestement indispose beaucoup de monde. Donc je vais la voir avec mon téléphone, et je lui dis « Madame, est-ce que vous voulez que j'appelle le SAMU social ?» Elle m'envoie balader, bon, très bien, la vie continue, on passe tous à autre chose. Et puis tout d'un coup, il y a un monsieur qui me tape sur l'épaule, 5 minutes après. Ce monsieur, il est comme vous et moi. Il fait froid dehors, il porte un costume en velours, il a une parka, il a un pullover. Et il me dit à l'oreille, « Dites-moi, monsieur, s'il vous plaît, pour moi, vous pourriez appeler le SAMU social ?» Alors, je suis un peu interloqué. J'appelle, il faut attendre. Visiblement, lui, il est très habitué du numéro du SAMU social parce qu'il me dit, « Vous savez, il y a beaucoup de monde, donc il faudrait rappeler dans 3 minutes. » Je rappelle, et puis de fil en aiguille, je vais boire un café avec ce type. Et ce type, il m'explique qu'en fait, lui, il a un travail. Et puis, son travail un petit peu flageolé, donc il est à temps partiel. À l'époque, quand il avait un plein de temps, il vivait dans les hôtels de périphérie parisienne. Puis à temps partiel, il ne sait plus où vivre, parce qu'il n'a pas les moyens. Et donc il m'explique, lui, que tout en ayant un travail, tout en ayant un salaire, il est amené à demander soit le SAMU social, soit des foyers, soit des hébergements d'urgence, c'est-à-dire l'assistanat pour quelqu'un qui travaille. Et je dois dire que pour moi, ça a été un révélateur, au moins pour deux raisons. D'une part, parce que très franchement, je trouve que, comme beaucoup de personnes qui vivent à Paris, ce qui est dramatique, on s'est un petit peu habitué les uns les autres à ces gens qui sont sur les bouches d'égout et qui cherchent à se réchauffer parce qu'ils ne sont pas vraiment comme nous. Hein, c'est la clochardisation. Mmh. Là, tout d'un coup, il se passe autre chose. Là, ce n'est pas un clochard. Là, c'est quelqu'un comme vous et moi, un travailleur, qui ne sait pas où aller. Et donc, je me suis dit à partir de là, est-ce que c'est un vrai phénomène? Combien il y en a? Quelle tête ils ont? De façon récurrente, on entend les hommes politiques nous parler de chiffres, toujours, souvent, lorsque c'est utile dans le discours, et puis après on n'en parle plus. Et j'ai eu envie de mettre des visages sur les chiffres, donc ben voilà, cette enquête, elle vient de là.
La France compte de plus en plus de travailleurs pauvres. Ce sont ces salariés qui ont un travail, mais qui n'échappent pas à la spirale de l'exclusion.
France 2, 16 novembre 2004.
Dans un rapport intitulé « La France précaire », le Secours catholique dénonce les effets pervers des contrats de travail précaires. Maud Nilo.
Quand le travail devient synonyme d'exclusion, pour son rapport, le Secours catholique s'appuie sur le cas d'1 600 000 personnes. Un tiers d'entre elles ont un emploi et vivent pourtant dans la précarité. En cause, l'explosion des contrats à durée déterminée, des contrats à temps partiel et surtout, dans 16% des cas, du travail par intérim. Car à la fin du mois, ces salariés gagnent au mieux le SMIC. Pour une femme seule avec un enfant, cela veut dire vivre en dessous du seuil de pauvreté. Alors comment se payer un logement? Le Secours catholique observe encore 20% de mal logés vivant à l'hôtel, en centre d'hébergement, voire dans la rue. Première réponse du gouvernement, la création d'un contrat d'avenir pour remplacer les fameux contrats d'emploi solidarité. Pour le Secours catholique, ce n'est qu'un sous-contrat de plus qui ne protège plus de la pauvreté. Quant aux logements sociaux, Jean-Louis Borloo promet d'en construire 120 000 par an entre 2005 et 2009. Aujourd'hui, seulement 80 000 sont construits chaque année.
Vous avez dit un mot terrible, c'est le mot gestion. C'est le mot gestion de la pauvreté, gestion des travailleurs pauvres. Et alors, en vous écoutant, évidemment, on sent... j'imagine, il faudrait qu'on imagine ce qui est en train de se passer dans la tête des auditeurs qui vous écoutent. Il y a ceux qui éprouvent une franche et sincère compassion, bien évidemment, par rapport à ces désarrois. Il y a ceux qui pensent que oui, ben d'accord, mais c'est des choix de vie et qu'on est encore en train dans cette émission de faire de la pleurnicherie et des gens toujours montrer le côté négatif et les perdants, etc. Mais il y a ce mot de gestion que je trouve absolument terrifiant aussi. Entre compassion, gestion, et puis tous ces arguments qu'on a, auxquels on croit plus ou moins d'ailleurs soi-même, sur, c'est leur façon de vivre.
Oui, vous savez, moi je veux pas du tout avoir, en tous les cas, ça n'était pas mon objet au point de départ, d'avoir une vision complètement manichéenne du sujet, hein, avec les méchants d'un côté, les bons de l'autre. Les travailleurs pauvres victimes, les patrons horribles exploiteurs et tout. Non, les choses sont à mon avis plus compliquées. Et en tous les cas, c'était dans une perspective d'une plus grande complexité que j'ai mené cette enquête. Mais qu'est-ce que j'en tire? D'abord, premier élément extrêmement surprenant. Les gens que vous rencontrez qui sont confrontés à la pauvreté du travail sont des gens qui ont une réelle pensée. Ils sont capables de discuter de toutes ces questions avec vous. Jean le jardinier que j'ai rencontré dans un foyer. Jean le jardinier, c'est un type qui est respecté dans le foyer, qui est censé connaître un petit peu tout le monde. C'est juste avant le référendum. Et Jean le jardinier, il me regarde et il me dit, tu vois, ça faisait plusieurs nuits que je passais là, donc je commençais à être un petit peu accepté par les gens qui étaient là, avec qui, pour certains, à qui je disais ce que je faisais. Je voulais essayer de comprendre, savoir ce que les uns et les autres avaient dans la tête, pourquoi ils étaient là. Bref, le travail d'enquête que j'ai essayé d'effectuer. Jean le jardinier, il me dit, tu vois, ce coup-ci, je te dis une chose. On est à 3 mois du référendum. On est au moment où tout dit que le oui va l'emporter à 65-70%. Tous les sondages. Jean Jardinier me dit, tu vas voir ce coup-ci, ça va passer au non. Je regarde, je dis, mais et pourquoi Jean? Il me dit, parce que tu vois, je veux dire, les types comme moi, ça fait 30 ans qu'on n'y va pas, on en a marre. Ça ne peut plus durer. Et Jean Jardinier, qui va de petit contrat en petit contrat, de CES en CES, de ces contrats au nom bizarre, tout d'un coup, il a exprimé quelque chose qui, en fait, s'est révélé 3 mois après. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous avez affaire à des gens qui subissent une situation, qui sont gérés parce qu'il faut gérer cette pauvreté pour qu'elle n'explose pas au grand jour, et il faut bien trouver des soupapes, et qui, en même temps, ont à certains moments la volonté d'être acteurs de leur propre histoire, ont une vraie pensée. Et ça m'a terriblement impressionné. On n'a pas affaire à des gens abattus, on a affaire à des gens qui pensent et qui cherchent à comprendre, qui cherchent à voir comment ils pourraient s'en sortir. Et puis, bon, alors, bien sûr, je vois bien l'argument. Il y en a là-dedans qui se complaisent. Mais tout système a cette réalité. Tout système a sa perversion. Et le système qui crée les travailleurs pauvres a comme perversion le fait de permettre à des gens de dire tout compte fait, vous savez, c'est la fameuse expression, mieux vaut le RMI ou je sais pas quoi que d'aller travailler. Mais c'est une infime minorité. Les gens qui pensent ça très franchement, je les invite à aller faire un tour dans le monde réel. Je vous garantis que pour la plupart de ceux qui sont contraints au petit salaire, au petit boulot, au RMI, la précarité, il n'aurait qu'un vœu, c'est de sortir de cette situation et de pouvoir travailler.
Ce qui est formidable, c'est que on s'est peu à peu habitué à ça. Hein, on sait, on trouve ça presque. Bon, évidemment, le chiffre là quand même est énorme. Hein, 7 millions de travailleurs pauvres. Je rappelle le titre de ce bouquin, 7 millions de travailleurs pauvres, c'est quand même énorme. Mais sinon, on s'est habitué peu à peu à l'inégalité. On est passé par le stade de la crise. Vous vous souvenez de la crise au début des années 80, il y avait une crise et c'était en fait le début. La généralisation, l'avancée de l'idée d'inégalité. Il y a 30 ans, 40 ans, on ne commençait jamais un discours politique, syndical, quel qu'il soit, sans promettre qu'on allait réduire les inégalités et répartir les richesses. C'était la formule de n'importe qui, de gauche, de droite, du centre. C'était d'abord ce qu'il fallait absolument promettre. Et c'était l'horizon, et c'était la valeur vers laquelle on allait réduire les inégalités. À partir du, je ne sais pas bien quand situé, mais je pense au début des années 80 pour ce qui nous concerne en France, peu à peu, à travers cette crise, l'idée d'inégalité est devenue, hélas, quelque chose qui s'installait. Et puis, on a découvert peu à peu que c'était normal, que c'était comme quelque chose de naturel. Et j'ai l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose qui a été voulu, non pas comme un grand complot, mais comme une idéologie qui s'est peu à peu installée sous le masque et sous le bouclier de quelque chose de naturel et d'évident.
Oui, parce que moi, ce qui me semble terrible, je suis d'accord, hein, il y a un aboutissement. Pour moi, l'aboutissement, c'est Lionel Jospin à la télévision, qui dit de façon naturelle, alors que Michelin fait des profits boursiers considérables et qu'ils sont en train de licencier des milliers de types, Jospin dit à un présentateur, le politique ne peut rien. Mmh. C'est pas de notre sort. Eh bien, derrière le politique ne peut rien, il y a une acceptation de tout ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire de différent. Et alors, il me semble qu'on en est un aboutissement terrible. Parce que, en gros, il y aurait un ordre naturel des choses, si on écoute ce type de discours, qui fait que certains sont nés pour être pauvres, d'autres pour être très pauvres, d'autres pour bien vivre, d'autres pour mal vivre. Par exemple, prenez ce patron de Carrefour. Parce que j'ai rencontré des employés de Carrefour, là, la grande surface. À l'époque, ils revendiquent pour des tickets restaurants pour avoir 1 euro de plus pour pouvoir déjeuner. Et on leur dit, vu votre nombre, c'est pas possible. L'entreprise n'a pas les moyens. Et l'on apprend, quelques mois plus tard, que c'est avec des indemnités considérables, des millions d'euros, que le patron en question quitte l'entreprise et s'en va, alors d'ailleurs que les résultats ne sont pas mirobolants. Et là, on se dit, est-ce qu'il y a un ordre naturel des choses ? Est-ce qu'il y a une volonté qui est organisée ? Et moi, je crois qu'il n'y a pas d'ordre naturel des choses.
Amiens, 4 novembre 2005, François Ruffin pour la Basse IGSU.
Bonjour.
Bonjour, bonjour Marie. Vas-y, rentre.
Merci.
Bonjour. Salut.
Ça va ? Coucher.
Donc là, on vient de rentrer chez Marie, qui est caissière à Carrefour. Et vous êtes en train de terminer en fait le repassage pour.
Voilà, pour préparer le sac de mon fils qui repart sur l'île pour la semaine.
On est venu ici un peu, c'est bon pour comparer votre statut avec celui de vos PDG successifs. Vous connaissez vos PDG successifs ?
Pas vraiment. Monsieur Daniel Bernard, il a dû venir une fois ou deux au magasin. Moi, ça fait 9 ans que j'y suis. Et il a dû peut-être passer 2 fois, c'est tout, quoi. Ça, c'est septembre. On est quoi ? Oui, octobre, c'est bon. C'est la dernière, ça.
Donc ça, c'est votre fiche de paye de septembre.
De septembre.
Alors, en haut, il y a marqué Carrefour, Continent France SNC. Et en bas, combien vous êtes payé ?
Net, 837,63 €.
837,63 €, c'est pour un plein temps ?
Non, pour un 30 heures. 30 heures par semaine.
Est-ce que c'est du temps partiel ? Vous ne l'avez pas choisi d'être à 30 heures ?
Non, du tout, non. C'était imposé d'office.
Et est-ce que vous avez une participation au résultat ? Enfin, est-ce que vous touchez de l'argent quand le cours en bourse monte, quand il y a des profits chez Carrefour, quand ça fait du chiffre d'affaires ?
On n'a pas eu d'intéressement, sauf 30 euros, quelque chose comme ça, puisqu'il a fallu... c'était l'année où M. Daniel Bernard est parti en touchant les 39 millions.
Donc ce printemps ? Ce printemps, quand M. Daniel Bernard est parti avec ses 39 millions, vous avez touché 30 euros, donc 200 francs de prime d'intéressement.
Oui. Voilà, tout à fait, quelque chose comme ça, oui.
Donc, on va essayer de faire un petit calcul, si vous êtes d'accord, pour diviser le salaire de M. Daniel Bernard par le vôtre. Mm-hmm. D'accord.
Mm-hmm.
Je vais mettre ma calculatrice. On y va. Alors. Donc, ça fait comme si il touchait votre salaire pendant 3873 ans.
3873 ans. D'accord, ben oui.
C'est comme si vous touchiez un salaire depuis
l'Antiquité. Depuis l'Antiquité.
Alors commençons par les chiffres, puisque vous êtes parti de ça. C'est quand même assez énorme. Déjà, vous nous rappelez que notre pays n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui, en moyenne, de façon moyenne, qu'on a un PIB qui est en augmentation constante, et plus ce PIB augmente, plus les inégalités se creusent entre les revenus élevés et une masse de plus en plus importante de revenus bas et surtout de gens qui ne peuvent plus vivre dans les villes, qui sont refoulés, repoussés de façon permanente. Alors, vous dites, c'est vrai que les chiffres sont trompeurs. On a des chiffres du chômage qui tournent autour de 9 à 10% à chaque fois.
Ça ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire du tout.
Ben non, puisque 9 à 10%, on est en train de comparer le nombre de chômeurs à la population totale du pays. Mais il faut les ramener, pour être sérieux, aux gens qui sont susceptibles d'être au chômage ou d'avoir un travail. Et là, pardon, on n'est plus du tout à 9 ou 10%. On est à plus de 20%.
On est à 22% selon vous. Hein. Oui. On est à 5 millions de chômeurs sur les 22,5 millions d'actifs, c'est-à-dire à 22% des actifs.
Des actifs, bien sûr.
Ce qui n'est pas du tout la même chose. De nombreuses familles, dites-vous, touchent aussi des petits salaires qui ne permettent pas de vivre dignement. Ainsi, pour des millions d'emplois en 2006, le SMIC moins 30% et le SMIC moins 40% sont devenus la norme, dépassant de loin le SMIC jeune, SMIC moins 20%, que le Premier ministre Édouard Balladur n'était pas parvenu à instaurer en 1993. La précarité a explosé, l'intérim ayant augmenté en 10 ans de 130%, le nombre de CDD de 60% et les CDI de seulement 2%. Ça, c'est des chiffres qui sont quand même assez radicaux.
Ce qui est terrible, c'est qu'ils montrent, à mon avis, ces chiffres, la radicalité de la société dans laquelle on est. Parce que les chiffres eux-mêmes sont ce qu'ils sont. Le problème, c'est que ces chiffres sont l'expression d'une organisation sociale dans laquelle nous sommes, que subissent ou pas les individus qui sont dans la société. Quand vous avez 3,5 millions de personnes qui sont à moins de 602 euros par mois, 7 millions à moins de 722, 12 millions de personnes à moins de 843 euros. Ça, c'est la réalité des prix, ça. C'est la réalité. Et c'est vrai qu'en même temps, notre pays est très riche, quand on regarde la progression du PIB, et la pauvreté est de plus en plus importante. Ça veut bien dire qu'il y a une organisation, une marche de la société dans laquelle nous sommes, qui, comme ça, n'est pas hasardeuse, mais qui est bien le produit de décisions et d'une volonté, qui est une volonté politique, à mon avis, qui organise cette société.
Alors, vous allez nous dire comment ça s'organise et s'articule, cette volonté politique, mais vous êtes allé sur les effets, sur ce que ça fait aux gens, et vous avez mené une enquête combien de temps ?
Oh, l'enquête a duré un an, parce que, comment dire, pour moi, ce qui était précieux, c'était précisément d'abord et avant tout de mettre des visages sur les chiffres en question. Sans doute, peut-être des formations de journalistes. Les statistiques, ça casse les pieds à tout le monde, et surtout aux journalistes qui les prennent comme ça et puis qui essaient de voir ensuite ce qu'ils peuvent en tirer. Mais, donc, pour ne pas rester au côté aride des statistiques, je voulais mettre des visages. Et donc, pour mettre des visages, c'était simple. Il fallait aller là où sont susceptibles de vivre ou de survivre les 7 millions en question. Donc, ça a été des foyers. Les foyers qui, généralement, étaient théoriquement, des foyers d'accueil pour la marginalité, pour la clochardisation, sont devenus des foyers de gestion du travail pauvre. Puisque s'y côtoient à l'intérieur, et ça j'ai pu le constater, à la fois des gens qui sont passés de l'autre côté, dans l'alcool, dans la difficulté extrême, et puis des gens qui vont là pour dormir, qui demandent à être réveillés à 4 heures le matin, pour pouvoir partir, prendre un métro, aller à leur travail et revenir le soir épuisé pour trouver leur couche à côté des premiers et passer la nuit. Il a fallu que j'aille, par exemple, tenez, il y a un endroit qui est fantastique pour bien voir ça. Ce sont les bains-douches. Les bains-douches, c'est intéressant parce que les bains-douches, tout le monde croyait qu'avec l'augmentation de l'urbanisation et notamment du nombre de salles de bain dans les appartements, les bains-douches péricliteraient. Eh bien, les bains-douches sont en fréquentation constante et en augmentation constante de leur fréquentation. Et à l'intérieur des bains de douche, on voit bien ces gens qui ont un travail, qui viennent le soir prendre leur douche, parce que soit chez eux ils ne peuvent pas, soit parce qu'ils ont l'eau. Mais il faut économiser le ballon d'eau chaude. Et on voit d'ailleurs, quand on discute avec eux, que c'est bien réel. Il a fallu aller sur les marchés, par exemple. Les marchés, c'est intéressant, il y a les glaneurs sur les marchés.
Oui, ceux qui, à la fin du marché, récupèrent ce qu'ils peuvent dans les cajots.
Si vous voulez, c'est étonnant, parce que je me suis rendu compte que moi-même, au même titre que sans doute plein de personnes qui nous écoutent, un grand nombre, on a déjà vu ça. On a déjà vu les fins de marché avec les gens qui ramassent. On n'a jamais prêté attention. Eh bien, en y allant plusieurs dimanches de suite, j'ai réalisé que ces gens qui sont là sont des gens qui, en général, ont un travail et qui intègrent dans leur activité hebdomadaire le fait de venir faire de la récupération sur le marché pour pouvoir se nourrir. Très honnêtement, pas par radinisme, uniquement parce que cela participe du complément du salaire qu'ils touchent et qui est insuffisant pour pouvoir avoir une vie à peu près décente et normale. Et comme ça, il y a une multitude d'endroits. Il y a des régions entières. Bon, par exemple, je suis allé faire un petit tour en Picardie, dans des établissements scolaires, où on parle beaucoup des établissements scolaires avec les fameuses ZEP, avec, bon, et puis on se rend compte que, en fait, c'est marrant parce qu'actuellement, il y a un débat, ou il y a eu un débat, sur la question des zones scolaires qu'il faut respecter. Mm-hmm. En fait, le problème, c'est pas la question des zones scolaires, le problème, c'est la question des zones sociales. Vous avez des régions dans lesquelles, lorsqu'il y a 60% de chômeurs qui envoient leurs enfants à l'école, ça se répercute. Et il y a des retombées. Donc, si vous voulez, bon, je ne vais pas faire catalogue trop exhaustif, mais ce qui me semblait précieux, c'était, partant des effets, mettre des visages sur ces chiffres. Mm-hmm.
Cai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Desperta com orações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção.
Tem garotas propaganda, aromoças e ternura no cartaz.
Basta olhar na parede, minha alegria num instante se refaz. Pois temos o sorriso engarrafado, já vem pronto e tabelado, é somente requentar
e usar.
É somente requentar
e usar
o que é made man.
Em toda a nação,
despertai com orações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção.
A revista moralista traz uma lista dos pecados da vedete. E tem jornal popular
que
nunca se espreme porque pode derramar.
É um banco de sangue encadernado, já vem pronto e tabelado, é somente folhear
e usar.
É somente folhear
e usar.
Porque é
made, made, made.
Vous êtes journaliste, vous travaillez pour la télé, France 2, comment se fait-il que ce sujet énorme, 7 millions de travailleurs pauvres, c'est quelque chose qui devrait être tous les jours, 20 heures. Oui. On devrait ouvrir le chaque 20 heures sur un phénomène comme celui-là. Il y a d'autres phénomènes de société.
Oui, Daniel Mermet, j'ai presque envie de dire à la radio, comment se fait-il qu'on ait tous les matins dans les journaux le CAC 40, ça intéresse qui quand même? Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans une organisation où le CAC 40 a pris la place de la vie réelle, qui sont celles de millions et de millions d'individus. Moi, je crois que le problème, c'est très dangereux comme système. Mais d'ailleurs, la façon dont les médias fonctionnent de ce point de vue, c'est une chose dangereuse. Parce que la vraie question, c'est est-ce que ça va pouvoir durer comme ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand des gens qui sont confrontés à ces réalités et qui ne peuvent plus vivre normalement vont-ils accepter que leur réalité soit déniée, que leur volonté soit bafouée et que, en gros, on leur parle en permanence d'autres choses. Par exemple, j'ai entendu Jacques Chirac, en tant que journaliste, de façon très attentive, faire son intervention courant septembre. Et Jacques Chirac, il dit quelque chose qui est terrible, quand même. Ça n'a pas été relevé. Mais pour moi, c'est terrible. Il dit, la France est sur de bons rails, nous allons rester, dans le cadre défini à Maastricht, les 3% de déficit public. Et ça passe comme ça. Mais comment se fait-il que personne ne souligne? D'abord qu'il y a eu un référendum qui a dit que, majoritairement, les Français, démocratiquement, souverainement, étaient contre une politique comme celle-là, puisqu'ils ont rejeté un traité constitutionnel qui fondait ça dans le marbre. Mais passons. Comment se fait-il que personne ne souligne que pour maintenir 3%, il va falloir liquider tout ce qui reste de services publics? Ou attaquer un peu plus ce qu'il en reste? Que donc, les sources de répartition, les sources de ce qui continue de gérer un minimum d'égalité vont être éliminées, que donc la pauvreté va augmenter. Il y a un lien direct. Et on nous annonce comme une fatalité, on ne peut pas faire autrement. En gros, la France est sur de bons rails parce que si on décode, la pauvreté va augmenter. C'est ça que ça signifie. Et alors c'est vrai que ça ne soit pas traité en tant que tel, ça me semble pas normal, mais à la fois, ça me semble dangereux. Ça ne va pas pouvoir durer comme ça. Je ne pense pas qu'un corps vivant qui constitue la société va continuer éternellement à vivre de cette façon. En tous les cas, les personnages que j'ai rencontrés pour faire ce bouquin, cette union de travailleurs pauvres, j'ai pas le sentiment qu'éternellement ils vont plier les chines et ils vont accepter la situation dans laquelle ils sont.
Jacques Cotta, en revenons à ces travailleurs pauvres. Le bouquin sort là, vous allez le renvoyer? Ils vont réagir, parce qu'il y a toute une galerie de personnes, de gens, de femmes, d'hommes que vous rencontrez.
Il y en a un certain nombre avec qui, d'ailleurs, je suis resté en contact. Pas tous, pour tout vous dire, parce que c'est vrai que ceux qui, dans la pauvreté, sont les plus précarisés, sont très difficiles à suivre. Donc ceux-là, bon, je les ai perdus de vue, mais certains, je suis resté en contact avec eux. Je compte bien leur apporter le bouquin et puis en discuter avec
eux. Et puis voir les réactions, ça va être passionnant. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un profil du travailleur pauvre qui tombe dans la dèche
Non, il y a plusieurs facteurs qui produisent ça. Il y a d'abord un caractère purement social, c'est-à-dire la perte de l'emploi. Et à partir d'un certain moment, la tentative d'en trouver un autre pousse à la précarité, au petit boulot, au temps partiel et tout. Et là, il y a une espèce de spirale terrible, ça va très vite. Il y a souvent une rupture familiale, j'en ai rencontré beaucoup, qui fait qu'à un moment donné, il y a un pan de la personnalité et de la vie réelle qui s'effondre. Et donc, ces gens sont ensuite entraînés dans toute une dynamique qui est à la baisse. Et puis, il y a souvent le produit aussi d'une crise dans toute une série de secteurs économiques où, pour cela, il est très difficile de rebondir. Et donc, c'est également la pauvreté qui l'emporte.
Vous soulignez le cas des femmes qui sont particulièrement touchées.
J'en ai rencontré une fantastique, c'est Fatih. Fatih la rebelle. Fantastique, Fatih. Fatih, c'est une femme de ménage. Vous savez ce que la modernité appelle les ingénieurs de surface. Parce que femme de ménage, il ne faut pas trop leur dire sans doute. Ça pourrait les amener peut-être à revendiquer. Donc on les baptise ingénieurs de surface. Bref, Fatih, elle n'est pas du tout politisée. Elle n'est pas du tout syndicaliste. Fatih, elle fait le ménage dans la banlieue parisienne. Et puis un beau jour, il se trouve qu'il y a un conflit dans l'hôtel qui appartient à un grand groupe pour lequel elle fait les chambres. Et les femmes de ménage, elles sont une trentaine, demandent un délégué syndical de venir de l'extérieur. Le type arrive, il leur propose de créer une section syndicale, puis comme il faut quelqu'un pour la représenter, c'est Fatih qui la représente. Et Fatih, elle fait bien son boulot de délégué syndical. Notamment, elle demande à ce que le prix des chambres soit payé au ménage, non pas de mémoire, je crois, 2 euros et quelques la chambre, mais soit payé au même titre que ce que l'on paye dans d'autres chaînes. C'est-à-dire un petit euro de plus, à nouveau. Ce petit euro, c'est l'euro de trop. Donc il y a un conflit qui apparaît, et ce conflit va aboutir à ce que Fatih va être mise dehors, et ça va durer plus de 18 mois. le licenciement de Fatih, jusqu'au moment où un arrangement sera trouvé. Bon, elle va rebondir. Et c'est un personnage fantastique parce qu'on se rend compte que l'histoire lui a permis de faire, à mon sens, idéologiquement, théoriquement, intellectuellement, 10 000 fois plus de pas en avant, en quelques temps, que ce qu'elle aurait fait en temps normal.
Oui, il y a une expérience qui s'accumule.
Ah, tout à fait. Ouais.
Mais là, il y a une expérience qui s'accumule, mais il n'y a pas de regroupement possible. Hein. Tous ces travailleurs pauvres se regroupent-ils ?
Non.
Est-ce qu'ils intéressent les syndicats ?
Non. Non.
Ils sont une force, mais pas organisés ?
Non, pas organisés du tout. Ils sont, et pourtant, ils auraient des intérêts communs. Ils auraient des intérêts unificateurs. Notamment pour renverser le sort qui est le leur, pour sortir de cette précarité, pour obtenir un vrai travail, pour obtenir un vrai contrat, pour s'appuyer sur le droit du travail, que certains trouvent aujourd'hui trop encombrant. Ils constituent cette force collective. Et pourtant, eh bien, on se rend compte, sans doute parce qu'ils n'ont pas de lieu de travail homogène, parce qu'ils n'ont pas de lieu de vie homogène, parce que c'est le produit de la précarité, eh bien non, il n'y a pas d'organisation. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'organisation syndicale et qui s'intéresse vraiment à eux, qui en tous les cas les représentent et les organisent.
Vous parlez des inspecteurs du travail aussi.
Oui. Les inspecteurs du travail, c'est terrible parce que je suis allé en Dordogne sur... Là, c'était une plongée, je l'ai fait ça pour la télé, un documentaire qui s'appelait « Dans le secret, les inspecteurs du travail assassinés ». Il s'agissait de, si ma mémoire est bonne, de Sylvie Trémouille et de Daniel Buffière. Mm-hmm. Deux inspecteurs du travail qui sont arrivés dans une ferme pour contrôler la régularité de l'embauche de cueilleurs de prunes. Ils sont tombés sur un type qui s'absentait 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il est revenu avec un fusil. Il a abattu Sylvie Trémouille à bout portant,
inspecteurs.
Et l'autre inspecteur également. Et les deux sont morts. Et si vous voulez, ce qui a été terrible, c'est que dans cette plongée que j'ai faite dans la campagne, c'était les réactions. Là, très franchement, je suis tombé des nues. Je suis par exemple tombé sur des gens qui m'ont expliqué, des propriétaires terriens, tout compte fait, les inspecteurs du travail avec ce qu'ils méritaient. Parce que, à force d'empêcher les propriétaires d'embaucher comme il le faut, je suis tombé sur d'autres qui m'ont expliqué que les Espagnols, on les emmerde pas avec le SMIC. Hein. Alors que nous, notre SMIC, disent-ils, je cite dans le texte, à 8 ou 12 euros, c'est trop contraignant. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Je suis tombé sur d'autres qui faisaient référence à la Chine et aux prisons chinoises, où on a des gens qui ramassent les fraises et qui trient les fraises pour rien du tout, puisqu'ils sont prisonniers. Et je me suis rendu compte que là, on était quasiment au 19e siècle dans les relations sociales.
C'est terrible. Bon en arrière, oui.
Ah oui. Et là, c'est terrible parce que, si vous voulez, la campagne est belle quand on la parcourt. Pour moi, c'est un peu la même démarche que ces travailleurs pauvres dans les villes. Paris est une ville fantastique. Quand vous regardez Paris et ses monuments, quand vous faites une grande ville, quand vous faites la campagne française, tout cela est très beau. Et lorsque vous regardez derrière ce décor et que vous voyez les gens qui le peuplent et l'organisation sociale qui est dedans, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui est très laid derrière. C'est le sort qui est fait à des millions d'individus. Et ce sort, pour moi, n'est pas une fatalité. C'est à nouveau une organisation voulue, des intérêts défendus, une répartition des richesses déterminée. Et là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Je suis Toto, je suis Total, totalement perdu sans étoile. Comme un oiseau dans le gasoil, un albatros sans idéal. Nos capitaux, le capital mène le bal. Nos capitaux, le capitaine perd les pédales. Monnaie, monnaie, Nemo, Nemo. Le maître mot, c'est la monnaie. Capitaine Nemo, où tu nous mènes? Tu nous malmènes. Menu, monnaie, tu nos menus. On s'évertue à te gagner. On s'entretue pour te garder. On se dépaisse pour du papier. On se met en pièces pour de l'espèce. Monnaie, 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 monnaie. Je suis Toto, je suis Total, totalement perdu sans étoile. Comme un oiseau dans le gasoil, un albatros sans idéal. Nos capitaux, le capital, au profit, la bourse, c'est la vie. partiche, du flouze, du bakchiche. Deus, Deus, c'est le nouveau Deus. C'est le blues de l'artiche, du flouze, du bakchiche. Deus, Deus, c'est le nouveau Deus.
Vous avez une lecture politique des choses, et non pas... Vous parlez de la charité, par exemple, à un moment, hein, du charity business.
Oui, oui, parce que lecture politique, je ne sais pas si c'est une lecture politique, il me semble que derrière, il y a une bonne conscience à bon prix qui est donnée. C'est vrai que lorsqu'on voit le système charity business qui vient des États-Unis, hein, ou notamment avec la façon dont le pouvoir central américain derrière Bush s'appuie sur un certain nombre d'églises, hein, et se sert de cela pour financer énormément, évacuer pas mal d'argent et dégager du charity business pour remplir une fonction sociale. La question que je me pose est la suivante. Est-ce que l'enjeu de la période peut être résolu par ce charity business, ou bien est-ce qu'il faut discuter sérieusement de ce qu'est l'organisation sociale de la société qui produit cette pauvreté ? Le charity business, tout compte fait, c'est un espèce de cautère sur une chambre de bois. Il y a quelque chose qui ne colle pas, ça ne marche pas, ça ne règle pas le problème. On peut toujours verser son obol et donner... Ça me fait penser à ces films qui remontent au début du siècle, où on voit le bourgeois qui sort de l'église et qui, sans doute avec un très bon fond, donne une pièce aux pauvres à la sortie de l'église. C'est très gentil de sa part, mais qu'est-ce que ça règle ?
Ça n'a absolument rien réglé, bien évidemment. Alors, on voit les thèmes sur lesquels on nous entraîne, cette campagne qui commence, nous entraîne vers le sécuritaire, on va sans doute aller vers le communautaire, mais le social, non, quoi. Voilà. Le social, c'est la chose d'une vieille gauche archaïque, c'est la chose des sociologues, c'est la chose de l'excuse, c'est la chose des juges trop laxistes. Hein, ouais. Je lisais une déclaration du pape qui disait on parle trop de social et pas assez de Dieu.
Oui, voilà, par exemple, pourquoi pas.
Alors vos conclusions pour l'instant, provisoires évidemment.
Oh, mes conclusions, c'est d'abord que malheureusement, il n'y a aucune raison que les 7 millions diminuent. Vous savez, 7 millions, c'est la norme européenne. C'est intéressant parce que pour les Français...
Il y a un quota.
Ah oui. Pour les Français, le seuil de pauvreté, c'est un petit peu technique ce que je vais vous dire, donc c'est rébarbatif, mais vous allez voir, ça s'incarne très vite dans les chiffres. Mais pour être exact, il faut le dire. Pour les Français, la norme de pauvreté, c'est 50% du salaire médian. C'est-à-dire le salaire médian, il y en a autant au-dessus qu'en dessous. C'est pas la moyenne, hein. Autant au-dessus qu'en dessous. C'est 602 euros. Pour les Européens, c'est 60%. Et là, on tombe à 7 millions. 722 euros. Puis il y a un seuil qui n'est pas défini, c'est le chiffre qui, à mon avis, est au-dessus, qui fait encore plus peur, 843 euros. Celui-là, il n'existe dans aucune norme. C'est 12 millions qui vivent avec 843 euros. On n'est pas très riche avec 843 euros quand même. Donc, soyons raisonnables, gardons le seuil européen des 7 millions. Ma conclusion, c'est que malheureusement, je crains fort que, vu le cours des événements, vu ce que l'on nous dit, bon, évidemment, nous avons des gens qui nous parlent de la pauvreté lorsqu'en période électorale, il faut en parler. Ils en parlent très... de façon superficielle, hein. Je crains fort que ce chiffre ne soit amené à augmenter, parce qu'il n'y a aucune raison, avec les mesures qui sont préconisées et qui sont mises en avant, qu'il baisse. Les contrats de travail sont de plus en plus précarisés, le droit du travail est de plus en plus attaqué, il y a des faits objectifs, on se réclame de plus en plus contre le vote majoritaire du 29 mai de directives européennes qui précarisent et qui attaquent un petit peu plus le travail, le salaire, et donc augmente un peu plus la pauvreté. Donc, je pense que objectivement, malheureusement, cette situation est amenée à progresser. Ces 7 millions sont amenés à augmenter.
Vous faites un lien entre cette situation et le référendum du 29 mai, vous faites un lien entre cette situation et l'affaire du CPE. Est-ce que vous faites un lien entre ces 7 millions de travailleurs pauvres et les élections à venir ?
Ah, sûrement, je pense que le lien, il est incontournable. D'ailleurs, j'aurais presque envie de faire une proposition aux gens qui en parlent beaucoup, des travailleurs pauvres. Tenez, je suis journaliste, j'ai fait ce livre. Eh bien, je leur proposerai volontiers de venir avec moi. J'ai les adresses. Je connais ces gens. Vous avez une radio. On pourrait tous ensemble aller avec Madame Royal, ou l'autre, si c'est un autre, avec Monsieur Sarkozy, avec Monsieur Villepin, avec tous ces gens qui sont amenés à vouloir nous gouverner ou qui nous gouvernent déjà. On pourrait aller les voir et parler des vrais problèmes. parler des vraies questions, rencontrer des vrais gens, comme on dit. Pas parler de la fracture sociale une fois comme ça, ou de la France d'en bas, parce que ça fait partie de la rhétorique électorale. Non, mettre des visages sur la fracture sociale. Mettre des tranches de vie sur la France d'en bas. On pourrait y aller, à partir de là, peut-être avoir une discussion qui aborde les vraies questions, comme j'ai tenté de le faire, à travers ce bouquin.
Merci à Jacques Cotta, invité de Daniel Mermet pour La Basse, si j'y suis, et auteur du livre 7 millions de travailleurs pauvres qui paraît aujourd'hui aux éditions Fayard. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Michel Toutain et Clément Léotard. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Koyan Guyenne, assistée de Pascal Pascariello. Le chef du répondeur est Christophe Imbert et vous pouvez lui laisser vos messages au 01 56 40 37 37.